Lizzie présente Son espionne royale mène l'enquête, tome 1 de Rhys Bowen, lu par Tatiana Werner. Ceci est une œuvre de fiction. Si quelques personnages historiques font de brèves apparitions dans ce roman, Georgie, ses amis et sa famille n'existent que dans l'esprit de l'auteur. Je me suis assurée que les personnages royaux ne font rien qui ne leur ressemble pas et qu'ils jouent leur propre rôle avec exactitude. Chapitre 1. Château de Ranorth, Perthshire, Écosse, 1932. Il y a deux inconvénients à être un membre mineur de la famille royale d'Angleterre. Pour commencer, on est censé se comporter comme il sied à quelqu'un appartenant à la royauté sans que vous soit donné les moyens de le faire. On attend de vous que vous embrassiez des bébés, fassiez acte de présence au château de Balmoral, vêtu d'un kilt, comme il convient, et portiez des traînes lors des mariages. Les moyens de subsistance ordinaires ne sont pas vus d'un bon œil. Il n'est par exemple pas autorisé de travailler au rayon des cosmétiques d'un grand magasin londonien comme Harrods, ainsi que je m'apprêtais à le découvrir. Lorsque je me hasarde à faire observer l'injustice de cette situation, on me rappelle le second point de ma liste. Apparemment, le seul destin acceptable d'une jeune femme de la maison Windsor consiste à épouser un membre d'une des autres maisons royales qui, semble-t-il, parsèment encore l'Europe, bien qu'il ne reste de nos jours que très peu de monarques régnants. Même une Windsor, aussi insignifiante que moi, est une prise séduisante pour ceux qui souhaitent forger une alliance précaire avec la Grande-Bretagne en ces temps instables. On me répète sans cesse qu'il est de mon devoir de faire un bon mariage avec un membre parfaitement affreux d'une famille royale européenne, un individu à demi aliéné, aux dents de lapin, dépourvu de volonté et de courage. Et ainsi, de nouer des liens avec un ennemi potentiel. C'est ce qu'a fait ma cousine Alex, la pauvre. Son exemple tragique m'a servi de leçon. Avant d'aller plus loin, je suppose qu'il me faut me présenter. Je suis Victoria, Georgiana, Charlotte, Eugénie, fille du duc de Glengarry et Ranorth. Mais tout le monde me surnomme Georgie. Ma grand-mère était la moins attirante des filles de la reine Victoria, et par conséquent, ne réussit jamais à prendre au piège un Romanov ou un Kaiser, ce dont je lui suis infiniment reconnaissante. Et j'imagine qu'elle le fut, elle aussi. On la casa alors avec un maussade baron écossais à qui l'on offrit un titre de duc afin qu'il acceptât de débarrasser la vieille reine de ma grand-mère. Elle mit consciencieusement au monde mon père, le deuxième duc, avant de succomber à l'une de ces maladies que provoquent des alliances consanguines et un excès de grand air. Je ne l'ai jamais connu. Je n'ai jamais rencontré non plus mon terrifiant grand-père, bien que les domestiques affirment que son fantôme hante toujours le château de Ranorth et joue de la cornemuse sur les remparts. Ce qui est en soi étrange, étant donné qu'il n'en avait jamais joué de son vivant. Lorsque je naquis au château de Ranorth, la demeure familiale, encore moins confortable que le manoir royal de Balmoral, mon père, désormais duc, était fort occupé à dilapider la fortune dont il avait hérité. Il avait lui aussi fait son devoir, en épousant la fille d'un comte anglais des plus convenables. Elle donna naissance à mon frère, contempla le paysage absolument lugubre des Highlands et mourut promptement. Ayant engendré un héritier, mon père commit alors l'impensable. Il épousa une actrice, ma mère. Les jeunes hommes comme son oncle Bertie, qui devint plus tard Édouard VII, étaient autorisés, voire encouragés, à batifoler avec des actrices, mais jamais à les épouser. Toutefois, maman appartenait à l'église anglicane et venait d'une famille britannique respectable, quoique modeste, à une époque où la menace de la Grande Guerre planait au-dessus de l'Europe, et l'on approuva donc cette union. Maman fut présentée à la reine Marie, qui la trouva remarquablement civilisée pour une personne originaire du comté de l'Essex. Le mariage fut cependant de courte durée. Même les gens dotés de moins d'entrain et de vivacité que ma mère ne pouvaient tolérer le château de Ranorth. Les gémissements du vent dans les vastes cheminées ainsi que le papier peint à motif tartan dans les cabinets, avaient pour effet presque instantané de plonger quiconque dans la dépression, voire la folie. Il est franchement surprenant qu'elle ait pu tenir le coup aussi longtemps. Je crois que l'idée d'être une duchesse la séduisait sur le principe. Elle prit toutefois conscience de ce qu'être mariée à un duc signifiait, passer la moitié de l'année en Écosse. Elle décida de décamper. J'avais alors 2 ans. Et fila d'abord avec un joueur de polo argentin. Suivirent de nombreuses autres fugues. Avec un coureur automobile français, mort tragiquement à Monte-Carlo, un producteur de cinéma américain, un fringant explorateur, et plus récemment, d'après ce que j'ai pu comprendre, un industriel allemand. Je la vois de temps à autre quand elle passe brièvement à Londres. Chaque fois plus maquillée qu'avant, portant des chapeaux de plus en plus exotiques et coûteux, tandis qu'elle s'efforce désespérément de se raccrocher à ses airs de jeune femme, lesquels incitaient les hommes à se battre pour elle. Nous nous embrassons joue contre joue et parlons du temps qu'il fait, de vêtements et de mes perspectives de mariage. Cela revient à prendre le thé avec une inconnue. J'eus au moins la chance d'avoir une gentille nurse. Mon éducation au château de Ranor fut solitaire, mais pas si affreuse que cela. Il arrivait que je sois soudain emmenée loin de chez moi afin de séjourner avec maman, lorsqu'elle était mariée avec quelqu'un de convenable et vivait dans un pays salubre, mais elle n'était pas vraiment taillée pour être mère. De même, il était rare qu'elle restât très longtemps dans un même endroit, si bien que le château de Ranor devint mon point d'ancrage, un lieu connu et fiable, quoique lugubre et isolé. Mon demi-frère, Hamish, que l'on surnomme généralement Binky, fut quant à lui envoyé dans ce genre de pensionnat où les douches froides et les courses à l'aube sont de rigueur, conçues pour façonner les futurs gouvernants de l'Empire, et je le connaissais à peine. Pas davantage que mon père, à dire vrai. Après la fuite notoire de ma mère, il perdit en quelque sorte courage et erra dans les stations thermales d'Europe, dépensant de plus en plus d'argent aux tables des casinos de Nice et de Monte-Carlo, jusqu'au tristement célèbre krach boursier de 1929. Quand il apprit qu'il avait perdu ce qui restait de sa fortune, il s'enfuit dans la lande et se tua avec son fusil de chasse, bien que l'on continue de se demander comment il y parvint, n'ayant jamais été un tireur particulièrement doué. Je me rappelle avoir essayé de ressentir du chagrin quand la nouvelle me fut annoncée, en vain. Mais l'idée d'avoir un père me manquait. Le fait de savoir qu'il serait là pour m'offrir protection et conseil, si j'en avais vraiment besoin. J'éprouvais une vive inquiétude en prenant conscience que, à l'âge de 19 ans, j'étais essentiellement toute seule. Binky devint ainsi le 3e duc, épousa une jeune fille assommante, issue d'une lignée irréprochable, et hérita du château de Ranor. Entre-temps, j'avais, pour ma part, été expédiée en Suisse, dans une institution privée où je fréquentais les filles délurées de gens riches et célèbres. On nous apprit à parler un français plutôt passable et pas grand-chose d'autre, hormis à organiser des dîners, à jouer du piano et à marcher avec affectation. Entre autres activités extrascolaires, nous fumions derrière le cabanon du jardinier et escaladions le mur afin de retrouver des moniteurs de ski dans la taverne locale. Par chance, certains membres plus aisés de ma famille se cotisèrent pour payer mon éducation et m'autorisèrent à rester en Suisse jusqu'à ma première saison mondaine. Pour ceux d'entre vous qui l'ignoreraient, une jeune fille de bonne famille se doit de prendre part à cette succession de bals, fêtes et autres divertissements lors desquels elle débute dans le grand monde et présentée à la cour. C'est une manière polie d'annoncer « La voilà, messieurs !» Maintenant, pour l'amour du ciel, que quelqu'un l'épouse et nous en débarrasse. Saison mondaine est en réalité un terme plutôt prétentieux pour ce qui se révéla être un défilé de soirées dansantes à mourir d'ennui, qui s'acheva en beauté par un bal au château de Ranor au cours de la saison de la chasse à la grouse. Le soir venu, tous les jeunes hommes qui y participaient furent trop fatigués pour danser. Rares étaient ceux qui, de toute manière, connaissaient les danses traditionnelles des Highlands. En entendant les cornemuses résonnant à l'aube depuis la tourelle nord, plusieurs d'entre eux prirent conscience que des rendez-vous urgents requéraient leur présence à Londres. Il va sans dire qu'aucune demande en mariage convenable n'était à espérer. Ainsi, à l'âge de 21 ans, je me retrouvais coincée au château de Hanor, sans avoir la moindre idée de ce que j'allais faire pendant le restant de mes jours.